lettres, Corinne. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Lettres, Corinne. Cette semaine, nous vous proposons de lire ensemble la nouvelle de Na Tuyang, le moulin à eau.
Lorsque l'eau, aspirée dans le tuyau d'évacuation émettant un bruit sourd, se déverse à nouveau sur la lourde roue à eau et est jetée avec fracas, les gémissements des ouvriers se font entendre plaintivement de l'intérieur du moulin où les sons des grains se déposent en couches. L'eau se transforme en billes, puis en éclats d'argent, avant de s'étirer comme des tiges de bambou et de jaillir soudainement et violemment, devenant des dragons bleus et blancs qui planent vers le coin d'une montagne. Après 4 km, le courant d'eau revient pour traverser le centre d'un champ encore d'une distance de 2 km, puis passe par la rive du village de Bangwon où se trouve un moulin à eau.
Publiée en 1925 sous l'occupation japonaise, cette histoire se déroule autour de trois personnages, Bangwon, sa femme et Shin Chi-gyu.
L'homme le plus riche et le plus puissant de ce grand village visible depuis le moulin à eau qui s'étend du nord à l'est était un homme du nom de Shin Chi-gyu. Bangwon travaille comme ouvrier agricole chez lui et cultive sa terre. Le jeune homme vit au jour le jour avec sa femme dans l'arrière-maison de son employeur.
Le moulin à eau du village est le lieu où se déroulent les événements majeurs de l'histoire. Voici la critique littéraire Chen So-young qui nous en dit un peu plus là-dessus.
Dans le passé, le moulin à eau était situé en général assez loin d'un village. Il servait souvent de halte pour les voyageurs ou de lieu de rendez-vous secret pour les amoureux. Ce récit montre comment la pauvreté dans les communautés rurales des années 1920 a changé l'éthique sexuelle des gens. La signification traditionnelle et les connotations sexuelles de ce lieu sont utilisées pour relier les enjeux économiques et l'érotisme. Dans les années 1920, la Corée a connu la modernisation capitaliste sous le régime colonial japonais. L'auteur Na Do-hyang montre l'amour détruit par la pauvreté et la dépravation des désirs charnels à travers cette histoire tragique.
Par une nuit d'automne au clair de lune, un homme et une femme ont une conversation secrète devant le moulin à eau.
Tu sais que je ne badine pas avec toi. C'est simplement parce que je n'ai pas de fils. Il suffit que tu en portes un pour moi et tout ce qui est à moi t'appartiendra. Allez, tu n'as qu'à me dire oui. Je virerai Bangwon dès demain et je te ferai venir vivre chez moi.
Mais comment allez-vous le chasser ?
Oh, ce ne sera pas si difficile. Que peut-il faire si je lui dis de partir ?
Eh oui, il s'agit d'une conversation entre la jeune épouse de Bangwon et le maître de ce dernier, Shin Chi-gyu. Entrez en premier, maître.
Le vieil homme attrape la main de la jeune femme avec impatience. Sa respiration devient lourde, comme si son cœur battait la chamade.
Vous êtes un homme respectable. Vous ne devez pas vous comporter comme ça.
La femme essaye de retirer sa main. Malgré ses paroles, ses actions semblent dire qu'elle va tout accepter. Le vieil homme la serre dans ses bras et se tourne, se dirigeant vers l'arrière du moulin à eau. Elle le regarde avec des yeux pleins de désir.
Maître, vous ne mentiriez pas, n'est-ce pas ?
Bien sûr que non. D'une main, la jeune femme prend le bras du vieil homme et de l'autre, elle montre le moulin à eau.
Entrez par là.
Environ une demi-heure plus tard, le vieil homme et la jeune femme sortent du moulin à eau.
La jeune épouse de Bangwon fréquente Shin Chi-gyu à l'insu de son mari. Écoutons Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l'Université nationale de Séoul, qui nous explique quel genre de personnage est cette jeune femme.
La femme de Bangwon veut mener une vie plus facile et plus confortable, savourant tous les plaisirs. Elle n'est pas motivée par des règles morales. Elle est du genre à facilement ignorer ou contourner tout ce qui l'empêche de poursuivre ses désirs. C'est donc quelqu'un d'amoral.
3 jours plus tard, Shin Chi-kyu convoque Bangwon.
Il y a des circonstances inévitables chez moi. Va donc chercher un meilleur travail ailleurs.
Bangwon pourrait d'une manière ou d'une autre trouver les moyens de gagner sa vie s'il était seul. Le problème est qu'il doit s'occuper de son épouse. Il supplie donc Shin Chi-kyu de ne pas le renvoyer, mais en vain. Une fois rentré chez lui, il informe sa femme de son licenciement soudain et lui demande d'en parler à la maîtresse de la maison pour que son maître change d'avis. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment allez-vous vous occuper de moi désormais? La femme de Bangwon, qui a déjà décidé de devenir la concubine de Shin Chi-kyu, trouve à redire à la moindre parole. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait pour bien me nourrir? Avez-vous réussi à me faire vivre dans le luxe? Non, vous m'avez traînée pendant toutes ces années pour me faire vivre comme une domestique.
Maudite ordure!
Pourquoi tu m'insultes? Regarde-toi, tout ce que tu fais, c'est insulter une femme dont tu ne peux même pas t'occuper. Tu ne m'as jamais acheté une bague ou une épingle à cheveux en argent?
Ah, c'est ce que tu veux? Une bague et une épingle à cheveux en argent? Sale garce!
Qui traite-tu de sale garce? C'est toi le sale bâtard!
Le mot bâtard sort de la bouche de la jeune femme. Mais regarde-moi ça! Qui traites-tu de bâtard? Il lui donne 2 coups de pied, la faisant tomber au sol, mais elle se relève immédiatement. Ses cheveux sont totalement ébouriffés et ses yeux vexés témoignent de la virulence du coup.
Pourquoi me bats-tu, bâtard? Allez, vas-y, tue-moi. Mourons ensemble, toi et moi.
Tu as bien décidé de mourir, hein, c'est ça? À chaque fois que son poing ou son pied frappe la jeune femme, Bangwon ressent une douleur intense lui transpercer le milieu de la poitrine. Une douleur encore plus intense que celle ressentie par sa femme. Pour lui, frapper cette fille dans un excès de colère, c'est tout comme se mordre le cœur avec ses propres dents.
Cette nuit-là, le jeune homme désespéré rentre ivre chez lui.
L'argent. Ah, qu'est-ce que l'argent? Oh, l'argent tue les gens. L'argent, l'argent. Les gens valent plus que l'argent, et non le contraire. Cette femme est bonne à rien. Pourquoi doit-elle m'insulter ainsi et me faire tant de mal?
Une fois rentré, il tente pourtant de s'excuser auprès de son épouse.
Hé, hey, tu dors?
Mais il est introuvable. Le jeune homme sort dans la rue la chercher. Une voisine lui dit qu'il s'est dirigé vers le moulin à eau et qu'il était bien coiffé.
Cette stupide garce, pourquoi diable irait-elle là-bas?
Bangwon part à la recherche de sa femme lorsqu'il aperçoit celle-ci et Shin Chi-kyu sortir ensemble du moulin.
Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais ça.
Jamais imaginé quoi? Tu ne peux pas me dire quoi faire à partir de maintenant. Si une femme dit non, l'homme doit la laisser tranquille. Quel est donc ce comportement peu digne d'un homme? Lâche-moi! La jeune femme retire son bras de l'étreinte de son époux. Shin Chi-kyu s'interpose dans la dispute.
Qu'est-ce que tu fais? Si tu es ivre, tu dois rentrer tôt chez toi. Tu as perdu la tête ou quoi? Bangwon reste immobile, sans un mot, les yeux fixés sur le vieil homme. S'il avait pu, il l'aurait frappé à mort, mais il le considère toujours comme son maître. Cette pensée, tel un éclair, paralyse sa bouche et ses bras. Ayant servi les autres toute sa vie depuis son enfance, il a dans son cœur une peur profondément enracinée de son supérieur. Cependant, à partir d'aujourd'hui, Shin Chi-kyu n'est plus son maître et il n'est plus le serviteur de cet homme. Ils se font face en tant qu'êtres humains égaux. Non, à partir de ce moment, Shin Chi-kyu est l'ennemi de Bangwon. Même si je t'arrachais les membres, ça ne suffirait pas. Tu m'as dit de partir aujourd'hui pour voler ma femme, n'est-ce pas? Mais il est fou. Hé, je rentre en premier, tu viens plus tard avec ton mari. Shin Chi-kyu tente de s'éclipser alors que la situation semble devenir dangereuse. « Oh, tu vas où? Ce n'était qu'un avant-goût de ce qui va arriver. » Bangwon se met à le battre aveuglément. Il se rend bientôt compte que ses poings ne suffisent pas. Il ramasse une enclume à proximité avec laquelle il frappe son ancien maître sans pitié. La rage remplit ses bras et son corps, et la cruauté qui réside instinctivement dans le cœur de chaque homme est complètement déchaînée.
Au secours, s'il vous plaît, au secours! Bangwon finit par être arrêté pour coups et blessures. Retrouvons une nouvelle fois la critique littéraire Chen Soyang qui nous explique comment cet ouvrier docile prend conscience de sa dignité humaine.
Les pensées et les actions de Bangwon nous laissent comprendre que la société coréenne de l'époque était gouvernée par la relation de dominance-subordination résultant de l'écart entre les riches et les pauvres. Même s'il n'y avait plus de système de caste sociale officielle, Bangwon se sentait tellement opprimé par l'autorité de Shin Chi-gyu qu'il se considérait comme son serviteur. Mais après l'avoir vu sortir du moulin haut avec sa femme, le jeune homme se trouve face à face avec son ancien maître en tant qu'être humain d'égal à égal. Il tente ainsi d'échapper à la hiérarchie capitaliste, mais cette tentative échoue tragiquement lorsque sa femme, déjà du côté du capitalisme, refuse de le rejoindre.
Bangwon revient au village après avoir passé 3 mois en prison, mais son épouse est déjà devenue la concubine de Shin Chi-gyu.
Devrais-je les supprimer tous les deux ?
Cette nuit-là, le jeune homme décide de tuer à la fois sa femme et son ancien employeur. Il escalade le mur de la maison de ce dernier et se dirige vers la chambre de son épouse, puis secoue discrètement la fenêtre. Qui est là ?
Dès qu'il entend la jolie voix de la jeune femme après si longtemps, il a l'impression d'être attiré par son charme et sa sensualité comme il le rêvait en prison. C'est comme s'il la retrouvait dans ses rêves et que sa détermination semblait fondre comme neige au soleil.
Bangwon réussit à se ressaisir et fourre une serviette dans la bouche de sa femme pour ensuite la traîner jusqu'au moulin à eau. Là, il la supplie de revenir.
Allez, fuyons ensemble loin d'ici comme on l'avait fait il y a longtemps. Je ne peux pas te tuer de mes propres mains.
Non, je préfère mourir que de partir avec toi. Je ne veux plus vivre une vie aussi misérable et méprisable.
Comment peux-tu me dire des choses pareilles? Tu m'as fait perdre tout ce que j'avais, tu m'as même envoyé en prison. C'était l'enfer sur terre. Pourtant, tu refuses toujours de contenter mon dernier souhait.
Je savais que je mourrais de tes mains un jour. Que je meure aujourd'hui ou demain, c'est la même chose. Alors, vas-y, tue-moi.
Tu le penses vraiment ? Réellement ?
Oui.
Bangwon enfonce de toutes ses forces la pointe de son couteau dans le flanc de sa femme. Le sang jaillit de sa main tremblante, tenant toujours l'arme. Il sort le couteau et, le pointant vers son propre cœur, tombe sur la femme. Il met ainsi fin à ses jours.
Quel est donc le message de l'auteur ? Retrouvons une dernière fois le professeur Bang Min-ho qui répond à cette question.
Nado-hyang illustre à quel point une société avec un grand écart entre les riches et les pauvres peut rendre la vie des gens malheureuse. Il veut également dire que les personnes démunies ne sont pas responsables de leur pauvreté et qu'elles ont aussi le désir et l'énergie de mener une vie décente. Cette nouvelle nous montre que la tragédie peut durer tant que les lois et les institutions contribuent à maintenir une telle situation irrationnelle.
Ainsi se termine cette édition de Lettres coréennes consacrée à la nouvelle de Na Do-hyang, Le moulin à eau. C'était Yun Yeni au micro avec Maxime Lalo au doublage et Ouhayang à la réalisation. Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle coréenne la semaine prochaine. Au revoir.